Bonjour et merci de participer avec nous à ces imaginales. On est tout à fait ravis de vous accueillir. On a un peu chaud parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais on ne va pas s'en plaindre. Ça nous évite la pluie et la boue. Parce que la pluie, je ne sais pas s'il va y en avoir, mais un peu de boue, ça c'est certain. Il y a des cafés littéraires qu'on hésite à faire et puis que finalement, on ne peut pas ne pas faire. On a associé il y a environ 4 ans, même si on avait fait quelques exceptions avant, le roman historique à l'imaginaire, puisque vous savez que le Festival des mondes imaginaires d'Épinal, les Imaginales, c'est avant tout, et c'est comme ça qu'il est né, un festival d'imaginaire, et ça le restera. C'est donc avant tout le Festival de la Fantaisie, qui est quand même le cœur de cette manifestation. À côté, évidemment, nous y avons aussi le fantastique, nous y avons aussi les contes et légendes. Tout à l'heure, une très belle rencontre sur La Fontaine, vous voyez, c'est très varié. Et puis aussi, évidemment, l'anticipation. On verra qu'elle est représentée à cette tribune par Roland Wagner, qui parle de la guerre d'Algérie, mais qui en parle comme un écrivain de science-fiction, c'est-à-dire en recréant un monde qui n'était pas celui de l'Algérie réelle et de la France réelle des années 50 et 60. Deux autres auteurs qui, pour l'un, a déjà commis de la science-fiction et plutôt de la bonne, pour la jeunesse, avec en particulier un roman qui nous avait amené à l'accueillir il y a quelques années. Et puis Lilian Batelot vient de sortir dans une très belle édition, une très belle collection des éditions Gulfstream, un roman policier historique. C'est le cadre de la collection, qui s'appelle Kabylie Twist. Et c'est sur la guerre d'Algérie, vu par trois jeunes gens. Trois jeunes gens, l'un algérien, une jeune pied noir, comme on dirait maintenant, on ne disait pas tout à fait comme ça à l'époque, et un jeune garçon passionné par le rock, qui a envie de faire une carrière, qui va signer un disque, et malheureusement, la feuille de route, les événements, comme on disait pudiquement à l'époque, la formule qui a beaucoup énervé mon père, qui lui a participé à la guerre d'Algérie. Mais qui, heureusement, c'est pour ça que je peux en parler à l'aise, n'a pas été confronté, en tout cas lui personnellement, à ces horreurs qui sont maintenant partie de l'histoire, qui donc a pu parler à ses enfants de la guerre d'Algérie sans en avoir à rougir trop, ce qui n'est pas si fréquent chez les hommes de cette génération qui généralement font silence. Et on va voir pourquoi. Et puis Didier Deninx, par qui on commencera cette rencontre. Alors Didier, d'abord, un grand merci. Bon, passionné par le rock, qui a envie de faire une carrière, qui va signer un disque, et malheureusement, la feuille de route, les événements, comme on disait pudiquement à l'époque, la formule qui a beaucoup énervé mon père, qui lui a participé à la guerre d'Algérie. Mais qui, heureusement, c'est pour ça que je peux en parler à l'aise, n'a pas été confronté, en tout cas lui personnellement, à ces horreurs qui sont maintenant partie de l'histoire, qui donc a pu parler à ses enfants de la guerre d'Algérie sans en avoir à rougir trop, ce qui n'est pas si fréquent chez les hommes de cette génération qui généralement font silence. Et on va voir pourquoi. Et puis Didier Deninx, par qui on commencera cette rencontre. Alors Didier, d'abord, un grand merci parce qu'il est venu au début de ces imaginales alors qu'on était encore un tout petit festival. Donc c'était par amitié, on se connaît de longue date, et non pas par intérêt pour vendre des centaines de livres. Maintenant le festival a pris un peu plus de place, donc on a encore plus de plaisir à le recevoir. Il vient justement sur cette partie importante de son œuvre, qui parle de roman noir, mais aussi d'histoire. Et Meurtre pour mémoire, ce n'est pas n'importe quel livre, c'est son deuxième livre, mais c'est le livre qui vraiment l'a fait connaître, a lancé sa carrière, ça c'est pour lui personnellement, mais avant tout a touché des milliers de lecteurs, pour ne pas dire des dizaines de milliers de lecteurs, et leur a fait découvrir souvent, avant qu'ils s'y intéressent par le film et l'histoire, une histoire quand même souvent cachée, souvent occultée, souvent déformée, où il y a beaucoup plus de victimes que de gens glorieux, et qui est cette guerre d'Algérie dont nous n'osions pas parler en France. Je pense que le fait qu'on puisse faire dans cette ville un café littéraire sur ce sujet montre que, comme certains l'ont dit, et je le reprends à mon compte, la guerre est finie, et que maintenant on peut parler histoire et littérature. Petit extrait, donc Meurtre pour mémoire, de Didier Deninx. À cet instant précis, un coup de sifflet strident couvrit le bruit de la circulation et la rumeur confuse qui s'élevait de la foule massée sur les trottoirs. des centaines de musulmans disséminés dans les cafés, devant les étalages des magasins, dans les rues adjacentes au boulevard, répondirent au signal et envahirent la chaussée. En quelques minutes, la manifestation s'organisa. Des pancartes hâtivement confectionnées sortirent de sous les manteaux. Plus loin, on déroulait une banderole « Non au couvre-feu ». Un groupe de femmes algériennes, revêtues de leurs habits traditionnels, se porta en tête, lançant les cris perçants que les Français connaissent sous le nom de youyou. Sans cesser de crier, elles agitaient leurs foulards à fils dorés au-dessus de leurs cheveux. D'autres manifestants, qui attendaient dans les couloirs du métro, rejoignaient les premiers. C'était maintenant plus d'un millier d'Algériens qui bloquaient le carrefour Bonne Nouvelle. Le patron du Madeleine Bastille avait l'expérience des soirées de troubles. La vitrine d'angle de sa brasserie s'était effondrée en deux occasions. Une première fois en 1956, lors de l'attaque du journal L'Humanité, en protestation contre l'intervention soviétique en Hongrie. La seconde fois en mai 1958, au cours d'une démonstration de force gaulliste ou anti-gaulliste, il ne se rappelait plus exactement. Avec l'aide des barmanes et d'une dizaine d'habitués, il rentra à chaise et table puis commença à coller de larges bandes de papier gommé à l'intérieur des vitres, une technique utilisée lors des bombardements et qui avait prouvé son efficacité. En face, le journal, mieux équipé, abaissait un réseau de fer sur sa façade. Roger Thirault redescendit les marches de la ruelle, intrigué par les clameurs. Il vit passer de nombreux musulmans et distingua nettement le slogan repris à pleine voix à 3000 mètres de lui. « Algérie, Algérienne !» Ainsi, ils avaient osé. La guerre, qui pour la grande majorité des Français avait la seule réalité d'une fuite de communiqués, tour à tour euphorique ou creux, cette guerre prenait corps au centre de Paris. La concierge de l'immeuble s'avança, interrompue en plein repas. Il tenait une serviette de table à la main. « C'est un comble, il se croit à Alger. J'espère que l'armée va rapiquer pour me virer tous ces félouses. » Ils n'ont pas l'air si terribles que ça. Il y a même des femmes et des enfants. « On voit bien que vous ne regardez pas les informations, monsieur le professeur. Leur méthode, c'est le pillage et les massacres. Leurs mousmets, leurs gosses, ils s'en servent pour poser les bombes. Alors si vous voulez mon avis, pas de quartier. » Roger Thirault s'éloigna mal à l'aise. Saïd et ses amis se trouvaient devant le Rex. La file d'attente pour les canons de Navarone s'était désagrégée. Aounit s'affairait à ouvrir la chaîne anti-vol de sa Flandria. 500 mètres plus bas, à mi-chemin de l'Opéra, le capitaine Ernaud de la 3e compagnie de CRS reçut l'ordre de disperser la manifestation qui se formait à Bonne Nouvelle. La 2e et 4e compagnie devaient, quant à elles, renfacer la brigade de gendarmerie mobile déployée aux alentours du pont de Neuilly, où on signalait d'importantes concentrations de Français musulmans. D'autres détachements de gardiens de la paix faisaient route vers Stalingrad, Gare de l'Est et Saint-Michel. La radio du quart de liaison ne cessait de rappeler les consignes. Brisez le mouvement, n'hésitez pas à vous servir de vos armes si la situation l'exige. Chaque homme est fondé à juger, en cas d'engagement physique, du moyen de riposte approprié. Avec de telles consignes, Didier Deninx, qu'est-ce que ça va donner ?
Il y a une consigne, c'est Maurice Papon qui fait la tournée du commissariat avant la manifestation. Il dit pour un de nos hommes qui tombe, il faut en faire tomber 10 de l'autre côté. Donc c'est la parole officielle, c'est l'ordre qui est donné et celui-là. Mais comment ? Les répressions, c'est des répressions qui ont déjà eu lieu. Hein. Personne ne se souvient, mais en 1954, il y a eu une manifestation dans Paris le 14 juillet. Et il y avait une partie de la manifestation qui était une manifestation syndicale, qui était une manifestation de travailleurs algériens qui travaillaient en région parisienne. La police a tiré, il y a eu 7 ou 8 morts Là, donc il y a cette manifestation-là. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une sorte de symbolique, elle se passe au cœur de Paris. Les gens vont être raflés, il y en a 11 000 qui sont raflés et qui sont emmenés dans des lieux de plaisir, le parc des expositions, le palais des sports et ainsi de suite. Et ils sont amenés par des autobus de la RATP. Et d'un seul coup, l'image, quand on voit les images du 17 octobre, elle rappelle furieusement par leur organisation, par leur bilan, les rafles de 42. C'est, on n'envoie pas les gens à la mort dans des camps de concentration, dans les camps d'extermination, mais les images, c'est les bus de la TCRP, les bus de l'RATP. Il y a une sorte de bégaiement de l'histoire. Et en plus, l'objectif de la manifestation, c'était la place. Il y a une place qui s'appelle Général de Gaulle aujourd'hui à Paris. Elle s'appelait la place de l'Étoile. Et la place de l'Étoile, Modiano a fait remarquer à tout le monde que la place de l'Étoile, c'était là, pour mettre l'étoile jaune. Donc il y a... Et l'Étoile, c'est ce que brandissaient les Algériens, puisque sur le drapeau de l'indépendance, il y a l'Étoile. Et donc, on a une série de significations dans cet événement du 17 octobre qui prend directement sa place dans l'histoire de France, comme une sorte de bégaiement sinistre. Et puis autre chose, moi, qui m'a frappé quand j'ai travaillé là-dessus, c'est que c'est la première fois au monde, où un peuple colonisé se manifeste et manifeste au cœur même de l'Empire. Le cœur de l'Empire, c'est Paris. Le cœur de Paris, c'est la place de l'Étoile. Et l'objectif, c'est celui-là. Ça ne s'est jamais produit. Aucun système colonial n'a été contesté au cœur même de son empire. Pas en Angleterre, pas en Belgique, pas en Espagne, pas en Italie. Donc il s'est produit ce 17 octobre 61 à Paris, quelque chose d'historiquement exceptionnel. Et ça sonne, ce 17 octobre, ça sonne véritablement comme la fin de l'empire colonial français. C'est-à-dire 150 ans d'aventure coloniale, le 17 octobre, les Algériens de Paris disent c'est terminé, ça n'existera plus. Après, il y a des soubresauts, il reste encore des confettis de l'Empire, mais véritablement, là, il y a quelque chose de symbolique qui se joue. Et je pense qu'une partie de l'occultation du 17 octobre 61, ça tient à ça, ça tient à l'aspect éminemment symbolique du 17 octobre 61.
Vous abordez, Lilian Batelot, la question de la guerre d'Algérie de façon différente. On a fait un autre choix. Je précise que Didier Denax, on ne va pas rentrer évidemment dans les détails, sinon vous n'aurez pas le plaisir de lire le livre, parce que c'est aussi un roman d'aventure, quelque part, mais c'est une aventure tragique, et un roman qui dit la vérité. Meurtre pour mémoire, ça démarre, on peut le dire, par un assassinat, et cet assassinat qui se produit dans le sud de la France va ramener, on va découvrir que c'est, on peut le dire, le fils de quelqu'un qui a été assassiné à Paris une vingtaine d'années plus tôt. Et le policier qui mène l'enquête, des inspecteurs un peu emblématiques, se demande s'il n'y a pas un rapport entre les deux. Et évidemment, ce rapport, c'est cette histoire cachée de la guerre d'Algérie, mais on ne va pas dire plus, parce que derrière ça, il va y avoir l'apparition d'une histoire, l'apparition d'un personnage et l'apparition d'un homme qu'on aura trouvé dans trois épisodes plus ou moins tragiques, le dernier sera un petit peu moins, de répression de l'histoire de France. Lilian Batelot, vous avez fait un autre choix, c'est un roman policier, on peut le dire, il y a une enquête, c'est un roman noir, un roman historique, mais vous l'avez fait avec trois personnages qui s'entrecroisent. Il y a quelques personnages secondaires, mais on suit surtout l'histoire de trois personnages.
Oui, je ne suis pas sûr que ce soit trois, mais c'est qu'il y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs personnages centraux. Les personnages secondaires, pour moi, ne sont pas vraiment secondaires. Ils jouent aussi un rôle parce qu'ils ils ont un regard et une parole qui vient nuancer beaucoup les choses. Ce qui m'intéressait, c'est de prendre cette guerre, qui en est une, mais à la vue des gens, simplement. Il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est que quand les gens racontent quelque chose qu'ils ont pu vivre, des gens qui ont vécu une guerre, qui racontent cette guerre-là, ça ressemble jamais, ce qu'ils en retiennent, eux, à ce que les livres d'histoire retiennent. Et ça m'a vraiment frappé, parce que ce soit des gens qui étaient sur le terrain de bataille, qui étaient parmi les civils, ils rapportent très rarement ce qu'on peut en dire après. Et c'est ce qui me fait comprendre, peut-être, que les livres qui traitent de l'histoire aient leur place dans votre festival. Parce que l'histoire, je la tiens pour une construction de l'imagination et non pas pour une réalité révélée. Donc on a vraiment notre place là. Et ce que vivent les gens qui vivent l'histoire, avec un grand H, c'est très loin de ce qu'on va retrouver plus tard dans les livres d'histoire. Et quand ils le vivent sur le moment, c'est très loin de ce qu'on peut lire dans les journaux. Parce que l'information, comme l'histoire, est un produit de l'imagination. Alors un produit qui est au service, bien souvent, de ceux qui font l'histoire et de ceux qui font l'information, c'est-à-dire des plus puissants, évidemment. Et ce qui m'intéressait, c'était là de livrer la vue de gens simples qui ont eu à souffrir, qui ont eu à pâtir de ces événements terribles. Voilà, c'était mon projet, et c'est pour ça que j'avais besoin de plusieurs pères dieux pour avoir plusieurs regards sur cette actualité, puisque il y a une partie du roman qui se passe en France et une partie qui se passe en Algérie.
un petit extrait pour voir un peu le ton de Kabylie Twist, le roman de Lilian Batelot, qu'on peut vraiment offrir sans hésiter. On peut d'ailleurs le lire quand on est un adulte, mais qu'on peut offrir sans hésiter aussi à un adolescent, pour qu'il puisse découvrir un peu mieux cette période. Et je pense que le début, entre autres, de l'extrait va beaucoup intéresser Roland Wagner. On y reviendra, on va laisser un peu de suspense. Et la musique, au fait, dis-moi, Richard, comment ça marche, ce contrat Saint-Tropez ? Évidemment, il jubile, Richard. Je ne sais pas comment il a réussi à tenir sa langue jusque-là. Il démarre au quart de tour, raconte les soirées du Luz Bar, Marc-Antoine, le triomphe à la fête de la Madrague, le contrat. Un contrat pour un disque ? À 45 tours, oui, pour commencer. Chez Philips ? Philips ? Mais c'est le Philips, enfin le vrai Philips, quoi. Le père en perd ses mots. Son index désigne le transistor posé sur le buffet. Un Philips, évidemment. Oui, le vrai Philips, papa. Mais le secteur disque, pas les postes radio. C'est la première maison de disques de France. Et il sort quand, ce disque ? Ben, on enregistrera à la rentrée, en octobre, à Paris. Et il devrait sortir avant la fin de l'année. Pendant ce temps, c'est le visage de la mère que je regardais. Sa surprise, le temps qu'elle comprenne. Puis la fierté, je pense, quelque chose comme ça. Mais ça s'est passé très vite. Et elle a commencé à décomposer. Je vais y arriver. Puis la fierté, je pense, quelque chose comme ça. Mais c'est passé très vite. Et elle a commencé à se décomposer. Richard est lancé. Il ne remarque pas immédiatement le malaise de sa mère. Maintenant, des larmes coulent sur ses joues. Je sentais bien qu'elle n'était pas dans son assiette. Je m'approche d'elle, prends sa main dans la mienne, elle tremble. Richard remarque les larmes. Elle le coupe net dans sa phrase. Sans comprendre, il regarde sa mère qui essuie ses joues avec un pan de tablier. « Mais c'est super, maman. C'est pas triste, c'est une nouvelle sensationnelle. » Les larmes reprennent de plus belle. Richard est paumé. Son regard saute sur son père, cherche un repère. Il sait, lui. Mais le visage du père reste grave, fermé. Il n'ose regarder personne. Il fixe un point vague, quelque part sur la table. La main de la mère s'est crispée sur la mienne. « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? C'est formidable. Je vais enregistrer un disque, notre musique casse la baraque. Twist à Saint-Tropez, c'est une bombe atomique, tout le monde le dit. J'ai signé avec une super maison de disques. Maintenant, il faut faire la fête, pas verser des larmes. » La mère n'en peut plus. Elle tente de contenir un sanglot dans sa poitrine en tournant les talons vers la cuisinière. Le père remue lentement la tête de droite à gauche, puis il ferme les yeux, ses lèvres se serrent. « Mais bon sang de Dieu, dites-moi ce qui vous arrive !» Richard, déboussolé, « C'est lourd, ça sent le grave. Je cherche dans ma tête qui peut bien être mort, ne trouve pas de réponse. » Le père se lève lentement, se dirige en silence vers le buffet où trône le transistor, ouvre le tiroir de droite. Il en tire une enveloppe bleue, ciel barrette tricolore. Mon cœur bondit. Personne n'est mort, mais c'est sans doute pire. Ce n'est jamais bon, les lettres de la République. Le père avale sa salive, claque la langue, puis il doit reprendre son souffle pour articuler. Les gendarmes sont passés hier au soir vers 6h. Ton sursis a été révoqué parce que tu as arrêté tes études. Silence. Il pose l'enveloppe sur la table d'un geste lent, comme si elle risquait de nous exposer à la figure, puis il lâche. C'est tes papiers militaires, tu es mobilisé. C'est la feuille de route. Mes jambes flanchent, je dois m'asseoir. Richard blême, je dois partir quand ? Faut que tu sois frais juste le lundi 1er août. Richard allume une cigarette, tire une bouffée qui en grille la moitié, puis il laisse tomber. Merde, Fréjus. Alors c'est l'Algérie ? C'est la guerre ? C'est ça ? Le père hoche la tête. Il sera jamais une star de rock, on l'a bien compris. On verra tout à l'heure pourquoi ça faisait sourire Roland Wagner, cette histoire de disque, parce qu'il y a aussi un disque, pas le même, dans Rêve de gloire, le roman de Roland Wagner, le grand livre sur la guerre d'Algérie qui nous, c'est pas que ça bien sûr, mais qui nous promettait depuis 35 ans. Et bien sûr, on en plaisantait, on a fini par ne pas y croire. Un roman sur la guerre d'Algérie, Roland Wagner ne nous le fera jamais. Voilà le roman. 4 prix littéraires, le Grand Prix de l'Imaginaire 2012, le Prix Utopial, le Prix du Lundi et le Prix ActuSF de l'Uchronie 2011. Excusez du peu. Un petit extrait. On parlera de disque après, si vous voulez bien, Roland Wagner. Il y a aussi de l'humour dans ce drame. J'ajoute un détail, parce que c'est important, évidemment, pour comprendre et entendre la voix de Roland Wagner. Roland Wagner est né à Bab el-Oued. Et il aurait pu, comme beaucoup qui étaient dans cette situation, vous en ramener de la rancœur et de la haine de l'autre.
Une crampe au bras.
Une crampe au bras, il en a ramené. C'est lourd à lire, et surtout à écrire. Extrait, parce qu'il y a quand même de l'humour dans cette tragédie, et il y a de l'espoir dans cette uchronie. le monde aurait pu être différent, et parfois sur certains lieux meilleurs. Le 17 octobre 1960, à 11h45 du matin, la déesse présidentielle fut prise sous le feu d'une mitrailleuse lourde, dissimulée dans un camion à la Croix de Bernie. Le général décéda quelques instants plus tard, sur sa dernière parole, « On aurait dû passer par le petit clamart qu'elle chie en lit. » Roland Wagner, dans ce livre qui respire d'amour pour l'Algérie que vous avez connue très jeune, pour cette Algérie qui aurait pu être en partie apaisée, pour la diversité de ces populations algériennes, et y compris les Algériens d'aujourd'hui, en tout cas ceux d'hier. Vous commencez par cette scène, ça fait rire tout le monde. Est-ce que ce n'était pas votre seule concession aux pieds noirs ?
Assassiner le général ? Bah oui, non, mais je veux dire, moi, je me rappelle très bien que mes parents ont débouché le champagne quand le général est mort, parce qu'ils ne l'aimaient pas. Ma mère l'appelait la Grande Zora. Quand même, limite raciste, hein, je ne voudrais pas dire. Mais... Donc, ouais, non, l'assassinat du général, c'est... mais en même temps, c'est un fantasme. Je me souviens d'un bouquin qui s'appelle Objectif de Gaulle, qui raconte les 17 tentatives d'assassinat contre le général, desquelles il a toutes échappé. Donc, moi, je me suis dit que, quand même, c'était. C'est pas le véritable point de départ de l'Uchronie, il y en a plein d'autres, mais c'est l'un des points de départ. Disons, symboliquement, c'est le plus important. Parce que je vois pas de figure historique plus grande que le général de Gaulle au XXe siècle en France. Dans le cadre politique. Donc là, vraiment, c'est on est au niveau de Kennedy ou de, enfin, c'est, on est dans le fantasme réalisé. Ah oui, c'est sûr, c'est une concession au pied noir, mais ça fait rire tout le monde. Même les fans du général de Gaulle.
On est donc dans Rêve de gloire. Vous pouvez voir d'ailleurs, vous ne verrez pas de si près, mais de si loin. Vous avez un disque, un vinyle, parce que c'est le disque de l'époque. Et en fait, très vite. Dans cette histoire, on va être sur la piste d'un disque que presque personne n'a vu, d'un disque mythique, d'un disque qui aurait existé, d'un disque pour lequel éventuellement on tuerait, un disque dangereux, et ce disque, encore un trait d'humour de Roland Wagner, ce groupe s'appelle Les Glorieux Fellaghas. On voit qu'on n'hésite pas à aller dans une sorte d'exorcisme de tout ce qu'il ne faut pas dire quand on est un enfant de Babel-Oued, et rien que pour ça déjà, mais le roman c'est beaucoup plus que ça. C'est un roman, pour ça que j'en parlais tout à l'heure et que j'avais choisi l'extrait d'Ignan Batelot, c'est un roman qui parle d'une Algérie mythique qui n'est pas celle qui a été réelle, d'un monde qui aurait pu être différent, c'est une uchronie, vous savez, on reconstruit l'histoire, il y a une sorte d'enclave à Alger, je vais vite, qui reste indépendante, ni lié à la France, ni lié à l'Algérie. La France est plutôt, par contre, à mal tourner, vraiment, puisque c'est là-bas qu'il y a une dictature d'extrême droite, militaro-policière. Et finalement, il fait presque bon vivre dans cet Algérois un peu bizarre, où il y a des vautriens, le mot, le néologisme vous fera là aussi sourire, qui sont en fait les enfants de Thomas Léry, du LSD et des drogues douces américaines, de la pop et du rock, surtout du rock. Et ça s'est produit non pas, comme on le sait dans l'histoire réelle aux États-Unis, mais ça se produit du côté de Saint-Tropez, décidément.
Non, Biarritz.
Biarritz, pardon. Et puis ensuite, c'était Saint-Tropez, là c'est Biarritz. Et ensuite ça se déplace, parce que ces gens sont expédiés de force, quasi déportés en Algérie. Et finalement, une sorte de commune où on trouve des pieds noirs, des Français expulsés, des Algériens, tous des gens qui essaient de vivre ensemble, d'aimer la musique et parfois d'utiliser quelques substances illicites. Tout ça autour donc d'une quête qui va être très complexe, qui va faire ressurgir une histoire qu'il aura peut-être fallu oublier, décidément. Là, on retrouve les thèmes de Didier Deninx, comme vous voyez. Hein, il y a quand même, dans trois livres complètement différents d'auteurs qui ne se sont pas concertés, à des époques différentes, toute une série de circularités. Roland Wagner.
C'est l'Algérie, c'est la guerre d'Algérie. Donc forcément, il y a énormément de zones d'ombre, il y a énormément de zones de honte, j'appellerais ça. Un détail qu'il faudrait citer aussi, c'est que moi, je suis fils de légionnaire. Mon père a fait 15 ans de légion, quoi. Mais comme il m'a toujours dit, la torture, c'était les paras qui la faisaient. Ah bon. L'idée de l'histoire cachée par rapport à la guerre d'Algérie, je pense que c'est encore plus important que par rapport à l'occupation ou à ce genre de période sensible. Je pense que Didier Deninx ne me contredira pas. C'est grâce à Didier Deninx que j'ai découvert le 17 octobre 1961. Avant, je ne savais pas que ça existait. C'est-à-dire que mes parents étant en Algérie à l'époque, ils ne savaient pas ce qui se passait en métropole, et les gens qui étaient en métropole ne savaient pas ce qui se passait en Algérie. Il faut bien voir que l'information à l'époque, aussi bien sous la 4e République qu'à l'époque du général de Gaulle, était très, très contrôlée. certains journaux paraissaient avec des encarts vides, parce que l'article avait été supprimé par la censure militaire. Certains numéros de journaux ne sont jamais parus, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une période de l'histoire française sur laquelle il y a énormément d'interrogations du côté français. Et quand on regarde du côté algérien, c'est à mon avis encore pire, parce qu'en France, la guerre d'Algérie n'est quasiment pas enseignée, mais en Algérie non plus. Et ce qui est raconté dans les deux cas est de toute manière en partie faux et biaisé idéologiquement.
Didier Dénin, est-ce que vous partagez, sinon l'hommage appuyé au général de Gaulle, mais sur le reste, je pense que vous êtes assez proche de Roland Berger.
Mais c'était sur les côtés circulaires. On a fait un débat hier, et en fin de compte, on s'est retrouvé, il y avait Ayerdal, et on a tous écrit cette année sur la Commune de Paris. C'est assez curieux. Là, moi, j'ignorais ce qu'il y avait dans les livres. J'ai publié une bande dessinée sur la rencontre du rock'n'roll et de la manifestation algérienne d'octobre 61. Tout simplement parce que la manifestation algérienne, elle est passée devant le golfe de Rouault. Il y avait le golfe de Rouault, c'est la naissance, et le golfe de Rouault, c'est l'automne 61. C'est là que toutes les choses se jouent. Et j'ai inventé une histoire où d'un seul coup, un jeune kabyle qui se fait passer pour un jeune français pour pouvoir faire du rock doit aller jouer au golfe de Rouault, peut-être gagner une première partie à l'Olympia, et c'est le soir de la manif, il est obligé d'y aller, il doit être à deux endroits. Et comment il va se débrouiller pour être aux deux endroits, et comment ça va se terminer tragiquement. Sur la musique, c'est d'une importance capitale pour la guerre d'Algérie. C'est le rythme binaire du rock qui est là. C'est comme les Stones, comme tous les Doors, c'est tout pour la guerre du Vietnam. Et ça, on n'a pas cette capacité en France. On a mis du temps à associer ce rythme-là, la bande-son de la guerre d'Algérie. On l'a toujours dissocié, peut-être à cause des informations contrôlées, peut-être le fait que le rock était complètement de côté dans la France gaulienne, mais pourtant, c'est ça. Et moi, je suis tombé sur une chose absolument incroyable. Pendant la guerre d'Algérie, le FLN pouvait avoir une radio. Il y avait deux radios, il y avait Radio Tunis et Radio Le Caire. Au début, ils avaient fait une radio idéologique, personne ne l'écoutait. Ils ont eu un trait de génie, c'est qu'ils ont mis 95% de musique algérienne, et puis tous les poètes algériens écrivaient comme ça, et c'était enregistré au Caire et à Tunis, et d'un seul coup, la radio du FLN a été écoutée par toute la population algérienne, kabyle et tout. Ce qui fait que, d'un seul coup, il y a eu un vecteur de propagande extraordinaire. La France s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait contre ça? Ils ont inventé une radio, l'armée a inventé une radio, qu'elle a mise dans un château à côté de Chartres. Ils l'ont appelée, mais en 1958, 57, ils appellent la radio Radio Paris. Ils reprennent le nom de la radio nazie, et l'armée française va rafler les troupes de chanteurs algériens dans les troquets de banlieue, les troquets de l'Est, à Longwy, Villerue. Il y a un chanteur extraordinaire, Slimane Azem, qui va être raflé, qui va aller dans le château, et ils devront écrire et composer des musiques qui sont envoyées en Algérie, et la France met des encarts publicitaires pour sa politique sur cette radio. Et les musiciens vont essayer de faire de la contrebande, parce qu'en Algérie, on se dit, ils bossent avec les Français. Slimane Azem, il va avoir d'énormes ennuis parce qu'il va être considéré comme un traître alors qu'il est totalement, il a été raflé. Et ils font des choses, par exemple, un jour il y a une chanson inédite qui doit passer juste avant un discours du général de Gaulle, et ils écrivent une chanson d'amour où il y a une fille qui dit à sa copine, ne l'écoute pas celui-là, il ne dit que des mensonges, faut que tu en choisisses un autre et tout. Et il y a une histoire comme ça de la lutte politique avec les radios, avec le rock. Et dans les années, fin des années 50, il y a une mode énorme en France de la chanson orientale, Fais-moi du couscous chéri, Bob Azam, et ainsi de suite. Ça vient de là, ça vient de l'utilisation de la chanson dans la guerre d'Algérie, quoi. Donc c'est un thème qui, c'est pas étonnant quoi, qu'il y ait un disque sur ton bouquin.
Et là aussi, hein, Lilian Batelot, vous, alors le titre déjà, Kabylie Twist, c'est quand même bouscule un peu, l'époque du twist, mais aussi le rock, puisque vous avez eu ce jeune mobilisé, finalement, sa carrière va être stoppée, brisée, parce qu'il ne va pas être là au bon moment, parce qu'au lieu de faire du rock, il va se retrouver embarqué directement pour la guerre d'Algérie et pas pour les endroits les plus paisibles.
Mais en train de faire la guerre, ouais. Mais c'est le cas pour des centaines de milliers de jeunes Français quoi, qui ont dû tout laisser tomber pour aller faire la guerre, pour aller faire une sale guerre, tout le monde le sait. Bon, alors, c'est pas un livre qui dénonce vraiment, c'est un livre qui raconte plutôt qu'autre chose, qui raconte ce qu'était le quotidien de ces gens-là. De ce jeune, comment il ressent, ce qu'il peut ressentir quand il se retrouve sur le bateau qu'il amène, qu'il voit la côte là-bas, qu'il arrive près du port de Philippeville et qu'il voit les jeeps, les self-tracks, les engins blindés. Alors il croit, vu de loin, que c'est le matériel stocké là. Et quand il s'approche, il voit que tout ce matériel est complètement carbonisé, détruit, coupé en pièces, et là, il se dit, putain, mais c'est la guerre, vraiment, c'est pas pour rire, quoi, il y a vraiment des bombes, il y a vraiment, voilà, et petit à petit, il rentre dans, alors, pendant des jours, ils vont faire des patrouilles où il va rien se passer, comme c'est le cas le plus souvent, quand on patrouille, il se passe le plus souvent rien, et jusqu'au jour où il va se passer un petit quelque chose, et puis ce petit quelque chose va l'amener à prendre position, mais malgré lui un peu, il va se retrouver plongé dans un bataillon disciplinaire sans vraiment de raison et à se retrouver à faire les pires horreurs finalement. Et pendant tout ce temps-là, il correspond avec la fiancée qu'il a laissée en France et qui aurait dû rester en France, mais c'est pas ce qu'elle a fait, parce que c'est une fille à papa, enfin une fille à... On dirait un gars qui a fait fortune très vite, donc qui a plein d'argent et qui peut se permettre des fantaisies. Et ces fantaisies auraient dû les rapprocher, normalement.
Petit extrait de Cabinet Twist de Lilian Batelot. Pour situer le passage, c'est relativement au début du livre. Une bombe a explosé dans un cinéma. Il y a des blessés, il y a des morts. Et il y a quelqu'un qui est légèrement commotionné. C'est un jeune Algérien qui, en fait, était là tout simplement parce qu'il fraudait, il écoutait, il regardait des films. Installé sur la cabine du projectionniste, avec d'ailleurs une sorte de complicité de certains qui l'avaient repéré, qui le laissaient faire, en se disant que si la culture rentrait, c'était important. Et ce jeune Algérien prometteur va se retrouver par erreur dans un blindé de l'armée, parce qu'il est sur place, il est Algérien, qu'est-ce qu'il faisait là ? Hop, dans le blindé, la scène. Je ne voyais pas grand-chose de l'extérieur, mais j'ai compris qu'on s'était engagé sur la piste qui mène à Tamentout, à travers le Djebel. Ziad m'avait parlé de Tamentout, Fejm Zala. J'avais eu du mal à croire qu'il ait vraiment pu y avoir un centre de torture là-bas, comme il me l'expliquait avec des détails incroyables. Et là, d'un seul coup, j'ai pissé dans mon pantalon. Pas beaucoup, juste quelques gouttes. Je pensais à tout ça quand les coups se sont arrêtés. J'étais tombé par terre sans même m'en rendre compte. À moins que j'aie perdu connaissance, je ne sais pas. Maintenant, je suis allongé sur le sol de ciment. J'ouvre les yeux. Mon sang poisse sur la joue qui est collée au sol. Devant mon nez, ma canine dans le gros caillou. Dans la flaque de sang, je vois aussi une grosse chaussure noire. Un homme que je n'avais pas encore jamais vu celui-là et qui se tient debout. Je vois son ombre. Ça suffit pour aujourd'hui, il dit d'une voix calme. Faut arrêter pour qu'il reste en état de parler. Donnez-lui un peu d'eau et mettez-le dans un bloc spécial jusqu'à demain matin. Je vais boire enfin, c'est tout ce que je retiens. Toujours cette soif atroce. Je vais boire, il l'a dit, de l'eau, il me faut de l'eau. Cet homme est un chef, il parle comme un chef, il va obéir. Personne ne bronche. Je vois ses chaussures qui s'éloignent. Des mains me saisissent, me jettent sur une table, sur le dos. Je n'ai plus de force, je ne bouge plus. Le goulot d'une bouteille cogne contre mes dents. Ouvre ta bouche, charogne. Le lieutenant a dit qu'il faut que tu boives. Je ne peux plus bouger la mâchoire. Le goulot force mes dents. De l'eau envahit ma gorge, m'étouffe, je tousse, hoquette, recrache toute la flotte. Le soldat rit, retire la bouteille. « Voilà, tu as bu. Il est sympa le chef, non ? Avec cette putain de chaleur, tu devrais crever de soif, salope. » Il ricane. « Il sait bien que je n'ai pas avalé une goutte. » Le soldat me trimballe comme une balle de foin. On traverse une cour, il fait nuit. Là-haut, des étoiles brillent. Il est tard. Un grincement. Ce n'est pas une porte. Il y a encore un bâtiment près de nous. C'est une trappe qu'ils ont ouverte. Une trappe dans la pierre du sol à travers laquelle il me jette. Je tombe dans le trou de tout mon poids. C'est un petit trou rond. Cimenté, dans lequel je rentre à peine. Quand je suis debout, il m'arrive aux épaules. Un soldat appuie sur ma tête avec sa chaussure, je plie les genoux, la trappe se referme, le verrou claque. Le trou est trop étroit pour se tenir assis. pas assez profond pour se tenir debout. Là-haut, je le sais, les étoiles brillent. Je passe la suite parce que c'est encore moins sympa. Comment on recrute finalement un combattant du FLN? Parce que, alors, on ne révélera pas tout le parcours de ce jeune homme, mais c'est ce qui va arriver.
Ben oui, c'est sûr qu'après cette injustice, parce que ça en est une, lui est là simplement parce qu'il resquille le cinéma, il connaît tous les films par cœur, il a une connaissance encyclopédique, voilà, et il aide à sortir les blessés après cette bombe-là, et il se fait embarquer, torturer. Qu'est-ce qu'il peut faire, sachant qu'il est orphelin par ailleurs? C'est dès qu'il peut, dès qu'il est requinqué, rejoindre les rangs des Feldaga, quoi. Et il va y passer un certain temps, mais c'est pas si simple pour lui, parce que il est orphelin dans une petite ville qui s'appelle Djeli, où il y a un gars qui l'a pris sous sa protection, et ce jeune homme est amoureux d'une jeune Française. Donc, enfin bon, voilà. Et ce qui me plaît, c'est de voir comment les personnages peuvent être partagés, tiraillés entre les réalités de leur vie, les réalités de leur conscience, de leur morale, et comment il faut bien se débrouiller de tout ça. C'est un peu tous les ingrédients de ce roman-là, me semble-t-il.
Autre univers, non pas l'univers historique, mais l'univers chronique de Roland Wagner. L'armée française bat en retraite, dit-il. La voie est libre jusqu'à Constantine et il paraît que les colons s'en vont, eux aussi. Les fellahs se sont soulevés un peu partout, ils en ont tué quelques-uns. Cette phrase souleva quelques ricanements. En toute honnêteté, je n'étais pas mécontent de voir partir les colons. Pourtant, je ressentais une vague gêne que j'étais bien en peine d'expliquer. N'avions-nous pas gagné? Des résistants de la dernière heure, dit un jeune caporal sur un ton de mépris. Où étaient-ils pendant que nous combattions? Tu as donc combattu? Répliqua le lieutenant. Il y eut un silence lourd, étouffant. Sur la demi-douzaine d'officiers présents, combien pouvaient se targuer d'avoir réellement affronté les Français? Moi-même, je n'avais pas tiré un seul coup de feu de toute la guerre. Oui, nous avions gagné, mais ce n'était pas nos armes qui nous avaient donné la victoire. Bien sûr, parmi les milliers d'hommes qui nous entouraient, regroupés autour de feux de camp dont les flammes dansaient dans la nuit, il s'en trouvait quelques-uns qui avaient connu le temps des incursions depuis la Tunisie, les heures de la guérilla et des escarmouches. Et quelques autres avaient sans doute participé à l'une de ces offensives infructueuses qui toutes s'étaient brisées sur la ligne Maurice et ses fortifications. Mais la plupart d'entre eux n'avaient tout simplement pas combattu parce qu'on ne leur avait pas donné l'occasion. En un sens, nous avions gagné par notre seule existence, par notre présence aux frontières tunisiennes et marocaines, par notre poids symbolique. Nous avions gagné, amère victoire, car nous n'avions pas tout à fait atteint notre objectif, car avec l'indépendance de l'Algérie était aussi venue la partition, car Oran, Bougie et Alger, oui Alger elle-même, demeuraient aux mains des Français. C'était le prix à payer, nous avait-on dit, le prix à payer pour mettre fin à cette guerre qui avait coûté la vie à tant de nos frères. Au début des négociations, les Français voulaient aussi garder le Sahara, avec son pétrole et ses ressources minières, mais le gouvernement provisoire de la République algérienne s'était montré intraitable. C'était Alger ou le Sahara. Les Français avaient choisi Alger, et Oran, et Bougie. Trois enclaves désormais accrochées au flanc de la libre Algérie, trois enclaves vers lesquelles refluaient les colons de l'intérieur du pays. Cette renonciation et une indépendance totale me rendaient triste, naturellement. Et pouvions-nous faire autrement? Sur le terrain, l'armée française avait largement gagné, depuis deux ou trois ans au moins, même si elle n'avait jamais réussi à réduire totalement les Junoud de l'Aurès, ce qui était pour moi un motif de fierté, puisque c'est de cette région que je suis originaire. Par contre, le gouvernement français avait perdu depuis plus longtemps encore la bataille diplomatique. Les résolutions de l'ONU, le Front uni des pays arabes, les condamnations des États, de l'URSS, de la Chine, les pressions des autres pays d'Europe occidentale. Sur le plan international, la France sortait très affaiblie de ce conflit. Et j'estimais que le fait d'avoir réussi malgré tout à conserver trois villes l'affaiblissait encore plus. Mais l'existence de ces enclaves n'affaiblissait-elle pas également le GPRA et le FLN? La persistance d'une présence française sur la terre d'Algérie n'était-elle pas camouflée pour la LN elle-même? Avions-nous gagné? Pourquoi, Roland Wagner, vous avez fait le choix de cet étrange choix, justement, des Français, plutôt que le Sahara et le pétrole, garder Alger, Bougie et Oran?
D'une part, parce que sur le plan romanesque, c'était plus intéressant et ça offrait beaucoup plus de possibilités. Et d'autre part, parce que le Sahara se serait retrouvé entièrement coupé que se retrouve enclavé, coupé de la mer, coupé des débouchés, et donc obligé de passer par un des pays limitrophes. Si Leclerc n'était pas mort et avait pu mettre en action son plan était de faire une bande qui serait allée du Sahara français jusqu'à la côte méditerranéenne entre la Tunisie et la Libye, ce qui aurait donné un débouché à la mer et ce qui aurait certainement rendu les négociations beaucoup plus difficiles à Évian avec le GPR. Maintenant, c'est vrai que j'ai choisi la solution la plus dramatique, je dirais, la partition. Mais il y avait aussi cette idée que, et sans prendre parti du tout, que les Européens d'Algérie, je dis bien les Européens parce que beaucoup étaient d'origine européenne, même s'ils avaient finalement la nationalité française, étaient un peuple en formation. Ils ont même eu un créole, le patouette, et c'est quelque chose qui pour moi est aussi fascinant que la fin de l'Empire aztèque. Bon, je suis peut-être plus concerné par les pieds noirs que par la fin de l'Empire aztèque, mais ce que je veux dire, c'est que quand on pense aux Incas, quand on pense aux Aztèques ou quand on pense aux Français d'Algérie, c'est la même chose. C'est une vue en coupe à un instant T, le moment où ça s'est arrêté. Et en fait, ça a tendance à effacer ce qui s'est passé avant. Finalement, on a l'impression que cette société des Européens d'Algérie a toujours été comme en 1962, au moment du cessez-le-feu, le 19 mars. Ce qui est évidemment une erreur totale, parce que toutes les sociétés évoluent, et que politiquement, et en fonction des endroits, les pieds noirs avaient tendance un peu à faire le yo-yo, quand même. Voter à droite, voter à gauche, et se jeter dans les bras de l'extrême droite à la fin. Mais l'idée de la partition, en fait, moi, au départ, je voulais carrément, c'était beaucoup plus dangereux, garder l'Algérie française. Et Gérard Klein m'a convaincu que c'était pas une bonne idée, que c'était pas gérable. Et c'est vrai qu'il a bien insisté en me disant que la partition était une meilleure idée. Puis bon, à force d'écouter, je me suis dit que oui, c'était là qu'il y avait tout le ressort dramatique qui apparaissait, que cette espèce de petite crotte de mouche plantée au nord de l'Afrique, qui n'est plus tout à fait une enclave européenne, parce que ça ressemble, c'est une espèce de ville internationale et cosmopolite, ça ressemble quelque part aux images fantasmatiques qu'on a de Macao et tout ça. Et là, ça permettait d'en dire beaucoup plus, en tout cas pour moi, que la réalité elle-même. Et finalement, non, on ne m'a pas posé la question, et je pense que personne ne me la posera, mais non, je ne suis pas un nostalgique de l'Empire colonial, je ne suis pas un nostalgique des colonies, mais il y a quand même un truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait plus ces espèces de villes franches, de ports francs, où les gens, des espèces d'interfaces entre l'Orient, l'Occident, qui étaient l'interface entre des cultures, entre des civilisations, entre des religions, où les gens pouvaient se mélanger. Et c'est pour ça que les truands jouent un rôle très important dans le bouquin, parce que à partir du moment où des truands d'origine différente sont capables de se mettre d'accord pour faire des coups, bah c'est là que l'intégration a commencé.
Toujours l'humour et la provocation sur Roland Wagner.
Je pense que Brice Hortefeux n'aurait pas apprécié.
Je ne me prononcerai pas sur ce sujet délicat dans une période électorale. Rêve de gloire, c'est aussi l'histoire du rock. Et vous êtes passionné, les disques, y compris vous avez recréé toute une série de groupes dont certains ont existé, vous les avez modifiés pour faire rire Johnny Hallyday. Il ne fait pas la carrière qu'on a connue dans votre roman.
Ah ben non, il saute sur une bombe à Assim et Saoud en 64. Une bombe du Hassalan, bien sûr. Hein.
Faut les remercier.
Et d'ailleurs, Johnny Hallyday, dans ce monde-là, a un guitariste noir qui s'appelle Dieudonné la Violette. Alors, je suis désolé, j'ai choisi le nom il y a 15 ans avant qu'un certain Dieudonné fasse ses conneries. Je ne l'ai pas changé parce qu'il était trop beau, j'ai trouvé. Et donc Johnny est quand même un grand homme parce que lors d'un concert à Toulon en 62, il arrête le concert au bout de deux morceaux parce qu'il y a des gens qui gueulent des injures racistes dans la salle. Et non, je veux dire, par contre, sa maison de disques n'autorisera jamais à ce qu'un disque où Dieudonné la Violette joue sorte. Parce que, attention, il a un style de guitare trop agressif, trop moderne, trop révolutionnaire. Et évidemment, il se retrouve avec le Jimi Hendrix local après avoir joué dans un groupe, si je me rappelle bien, où il devait y avoir John Lennon au chant, Ginger Baker à la batterie et Chas Chandler à la basse, ou un truc comme ça. Enfin, bon, non, c'est génial de réécrire l'histoire, c'est vraiment génial. Alors, réécrire l'histoire du rock en supprimant les Beatles au bout de 3-45 tours, ça oblige à faire des contorsions intellectuelles pour rendre l'histoire crédible. Et là, franchement, ça n'a pas été facile.
Il n'y a pas Vigon dedans. Il n'y a pas Vigon dedans.
Le rock, la partition, toute cette histoire, mais si j'ai bien lu, parce qu'on ne pourra pas en parler plus longtemps, parce qu'on arrive à la fin de notre café littéraire, vous avez bien vu l'ampleur de cette réussite. Bon, 4 prix littéraires, on peut en avoir un par copinage, pas 4. Pas 4.
Beaucoup de copains.
Oui, bah, pas à ce point-là, Roland n'en a pas tant que ça. Beaucoup, non, non, avec ses romans provocateurs, il en a perdu beaucoup. Donc, un vrai, des vrais prix, c'est pas Roland qui a eu le prix Roland Wagner, c'est le roman. Et le roman le mérite, vraiment. Non, je crois que c'est la première fois qu'un écrivain français, je tiens à le souligner, est capable de faire une uchronie qui a la même ampleur que les grands romans uchroniques américains, comme Philip K. Dick, qui lui a réécrit l'Amérique parce que la façon dont on a pu faire du racisme anti-japonais, je ne parle évidemment pas de l'impérialisme japonais, de sa violence, l'a révulsé quand il était jeune, et c'est ça qui a provoqué. Et là, on aurait pu attendre, évidemment, quand on ne vous connaît pas personnellement, quand on ne connaît pas vos convictions, on aurait pu s'attendre à ce que l'enfant de Babelwed fasse le livre de la haine et de la revanche. Or, c'est tout le contraire. Parce qu'y compris cette enclave que vous créez, que vous imaginez, ce n'est pas une enclave idyllique, il n'y en a pas dans la vie rêvée ou la vie réelle, mais c'est une enclave où on a l'impression que quelque part, vous nous faites rêver pendant un tout petit moment de ce qu'aurait pu être au moins une partie de l'Algérie, sinon toute l'Algérie, si le racisme, la haine, la discrimination ne s'était pas imposé, et si la coopération, quelque part, on aurait pu avoir un autre peuple algérien. C'est presque, c'est pas de la politique votre livre, mais on a l'impression que vous nous faites rêver de ce qu'aurait pu être, et que quelque part, l'histoire n'est jamais écrite. C'est un peu ça que vous nous dites dans votre roman, Roland Wagner.
Moi, ce qui m'a souvent vraiment beaucoup marqué, c'est que les gens du FLN qui m'étaient présentés par mes parents comme, en gros, des bêtes assoiffées de sang, hein, étaient souvent des gens très intelligents, comme par exemple Aït Ahmed, l'un des 9 chefs historiques, pour qui l'Algérie indépendante devait se faire avec les Européens. Il n'était pas le seul. Le drame de l'Algérie, ce n'est pas qu'elle soit devenue indépendante, contrairement à ce qu'on veut nous dire, notamment sur le pourtour méditerranéen. Le drame de l'Algérie, c'est plutôt que on n'a pas laissé les démocrates installer une démocratie, que Ben Bella, qui avait pourtant passé une bonne partie, un autre chef historique, qui avait passé une bonne partie de la guerre en prison, enfin avec d'autres chefs, et s'est débrouillé pour entrer en Algérie avec l'armée de libération nationale, celle dont on parle dans le bouquin et qui n'a pas combattu, et c'est vrai qu'elle n'a quasiment pas combattu. Les gens, de toute façon, la guerre d'Algérie, c'est simple, la plupart des gens qui ont combattu sont morts pendant la guerre. C'est des gens qui étaient enclavés, enfin, qui faisaient de la résistance, on appelle ça comme on veut, qui étaient dans le pays et qui luttaient. Et eux, ben, ils sont quasiment tous morts. Et ceux qu'on a vus, c'est ceux qui n'avaient pas pu combattre parce que l'armée française les bloquait aux frontières. Ils étaient au Maroc, ils étaient en Tunisie, ils ne pouvaient pas rentrer. Et Ben Bella, il est rentré avec eux en s'appuyant sur Boundiane. Il a fait un coup d'État, il a mis ses anciens associés et copains en prison, comme Boudiaf, par exemple, qui était totalement scandalisé. Moi, j'ai lu le bouquin de Boudiaf qui s'appelle « Où va l'Algérie ?». Boudiaf n'arrive pas à comprendre que des Arabes puissent faire à d'autres Arabes ce que les colonisateurs leur faisaient avant. Et là, il est vraiment traumatisé, les écailles lui tombent des yeux, et là, il perd sa naïveté. Le problème, c'est qu'il l'a perdu trop tard, et qu'entre-temps, Ben Bella a pris le pouvoir, et ensuite, en 65, Boumdiane a pris le pouvoir. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment graves pour le pays, parce que là, il n'est plus question de démocratie. Boumdiane, c'est un musulman puritain, il prétend être socialiste, je n'entrerai pas dans ces conditions, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est l'arabisation, l'islam, et revenir sur le statut de la femme, parce que les femmes, pendant la guerre d'Algérie, en se faisant péter avec des bombes, elles ont quand même gagné des trucs. Bah, avec Boumdiane, lui, s'il avait pu leur supprimer le droit de vote, il l'aurait fait, quoi. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu, mais il aurait aimé le faire. Donc le drame de l'Algérie, il y a le drame de la colonisation, et après, il y a le drame de la révolution confisquée. Et confisquée, vraiment, bah, elle est encore confisquée aujourd'hui. Enfin, je veux dire, pour que l'Algérie devienne un véritable pays où les gens pourront vivre heureux, il faut qu'ils se débarrassent du FLN. C'est très clair. Et si j'avais dit ça il y a 50 ans, on m'aurait traité de sale fasciste. Aujourd'hui, il y a une espèce de consensus qui est que le pouvoir doit changer en Algérie, que l'Algérie doit devenir un pays vraiment démocratique. Alors, c'est pas pour ça que j'ai écrit le livre, mais c'est vrai que d'écrire une Algérie démocratique où Boudiaf était président en 1972-74 et arrive à supprimer la corruption, alors qu'il a quand même, dans notre monde, été assassiné justement parce qu'il voulait essayer de lutter contre la corruption. Ben, je suis désolé, l'Uchronie, c'est ça ce que ça permet de faire. Ça permet de mettre l'accent sur les personnages de l'histoire qui étaient importants et qui, disons, je vais me permettre de dire, allaient dans le bon sens. Et peut-être que dans notre monde, ils n'ont pas pu le faire, mais là, dans ce monde-là, ben, Mourad Didouche, qui est mort en 1955, et ben, il a été président, et Boudiaf, qui a été assassiné, il a été président. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait, ça a été pour le bien de l'Algérie, et pas pour leur bien personnel.
Finalement, la conclusion, C'est que vous aimez toujours l'Algérie, Roland Wagner.
Bah, évidemment, l'Algérie, c'est un pays magnifique. Moi, j'ai toujours trouvé que les gens étaient super. Toutes les fois, j'y suis retourné, vraiment. Et après l'indépendance, on aurait cru que la guerre n'avait jamais eu lieu. À la manière dont les gens étaient contents de nous voir, c'est un truc que j'ai pas vu dire souvent, sauf par des gens de droite ou d'extrême droite, qui est que beaucoup d'Algériens regrettaient non l'armée française ou la colonisation, mais simplement les pieds noirs, parce qu'ils étaient habitués à vivre avec eux. Et je veux dire, si aujourd'hui, par exemple, on avait un dictateur fasciste qui mettait tous les Algériens dehors et qui les renvoyait, mais moi je suis sûr qu'il y aurait énormément de gens qui aujourd'hui se plaignent de l'immigration, qui ressentiraient un manque. Ne serait-ce que Marine Le Pen, qui n'aurait d'ailleurs plus d'arguments électoraux. Et bon, je me tais.
Oui, on est en campagne électorale, évitant. Didier Deninck, pour conclure notre café littéraire. Et vous rendez compte, hein, il est né à Babelouad et il nous ramène des trucs d'énonciation. Non, mais franchement, on peut plus se fier aux clichés. Didier Deninck.
Moi, simplement un souvenir d'un voyage en Algérie en 1977. Je suis vers Oran, Cap-Bon. Et là, je marche le long des plages pendant des kilomètres, avec ma femme et puis une copine. Et à un moment, j'arrive, il y a une petite crique, et il y a une trentaine de femmes algériennes nues qui sont là en train de s'ébattre dans l'eau. Et très surprenant, quoi, en 77, Boumédienne, tout ça. Et je passe avec les gens, et on dépasse en faisant semblant de ne pas les voir. Et on remonte, et là, il y avait des mateurs qui étaient derrière les dunes, tout ça. Et cette image-là m'était restée, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, que... Et un jour, des années plus tard, je lis un livre de Jean-Luc Enaudi, qui a beaucoup travaillé sur le 17 octobre 61, et qui consacrait une sorte de biographie à une Espagnole, à une Française originaire d'Espagne, qui a combattu dans les brigades internationales, Louisette, et au milieu du livre, il dit simplement qu'elle était en Algérie, au Cap-Bon, après la guerre d'Espagne, elle était venue là. Elle était libertaire, anarchiste, nudiste. Et elle avait fait un groupe de femmes nudistes dans ce coin d'Algérie.
C'est merveilleux.
Et elle était obligée de partir dans les années, au tout début des années 90. Mais il y avait cette liberté des corps qui existait. Et c'est une image sur l'Algérie qui dit ça, justement. Le fait, les rencontres entre diverses cultures, diverses civilisations, qui fait que d'un seul coup, il y a des voiles qui se déchirent.
Et vous, Lilian Batelot, comment, pour conclure ce café littéraire sur justement vos personnages qui n'ont pas eu tout à fait la vie qu'ils auraient souhaité à cause de cette guerre ?
C'est pas sur ça que j'ai envie de conclure. J'ai envie de conclure en rappelant simplement, pour rejoindre Roland, qu'effectivement, il y a 800 000 pieds noirs qui ont été rapatriés en France, mais il y en a 200 000 qui sont restés là-bas. Qui sont restés là-bas et qui ont fait leur vie là-bas. Et qui ont fait un peu ce que tu inventes dans ton livre, finalement, de manière très différente, bien sûr. Mais coup en cours à tous les clichés, ils sont restés là-bas. L'immense majorité ne s'est pas fait couper la gorge par l'effet de la guerre. Ils ont pu rester. Ce qui tend à prouver que tous ceux qui sont rentrés étaient, pour beaucoup, plus ou moins... perverti par la propagande qui leur promettait une mort certaine s'ils restaient sur place, quoi. Voilà. Or, c'est pas c'était pas la vérité, puisque ceux qui sont restés ont pu vivre sur place de manière tout à fait normale et en harmonie avec le peuple algérien dont ils font partie, dont ils ont fait partie.
Beaucoup de choses cachées qui commencent heureusement à être révélées. C'est bon quand un pays est capable de regarder les yeux dans les yeux son histoire, la vraie. Les Américains nous le prouvent parfois, qu'on critique beaucoup, au moins ils ont cette qualité. Et essayons d'avoir au moins cette bonne qualité américaine. Ils n'ont pas que des qualités, mais parfois ils en ont sur leur histoire. Faisons la même chose à travers le roman, finalement, quand les historiens mettent du temps à parler. Donc, pour des ados, vraiment, mais ça se lit très bien pour des adultes, Kabylie Twist de Lilian Batelot. Un très beau roman sur la guerre d'Algérie pour les adolescents. Didier Deninck, le grand polar historique sur la guerre d'Algérie, Meurtre pour mémoire, et en plus c'est un polar épatant, je tiens à le dire. Et puis Roland Wagner, si vous n'avez jamais lu une véritable chronique science-fiction, jusque-là ça vous faisait peur, bon, certes c'est mieux d'aimer un peu le rock, c'est sûr, mais vous verrez, rêve de gloire, on s'y immerge, c'est un véritable fleuve, c'est un vrai chef-d'œuvre de l'Uchronie et de la science-fiction française. Trois grands livres, précipitez-vous, ils vont vous les dédicacer sous la bulle du livre. Merci à vous trois.
Merci à toi. Merci.